Věřme dál v socialismus a demokracii.
Vážení přátelé, napriek střelbě a napriek citovému pohnutí, které všichni přijde...
Товарищи делегаты, уважаемые гости, 27-й съезд КПСС...
La guerre de Corée se poursuit. Sous la conduite du général Volcker et du général Dean, héros des combats de Taiwan...
...the defense of our own security and of the entire Western Hemisphere...
Let me ask you one simple question. Do you placed and is placing medium and intermediate range missiles and sites in Cuba? Yes or no?
La fabrique de la guerre froide. Si les États-Unis et l'Union soviétique négociaient un rapprochement pour sortir des heures les plus chaudes de la guerre froide depuis la mort de Staline, cette détente politique reste fragile. Leur rivalité nucléaire perturbe une conférence au sommet organisée à Paris en mai 1960 sur le sort de Berlin.
Midi Actualité, une émission de Maurice Hutin et Paul-Louis Mignon.
Hier soir, après 11 heures de délibération, après 11 heures de discussion, après 11 heures de consultation, le département d'État à Washington a enfin publié un communiqué. Là, les termes de ce communiqué, je ne dirais pas qu'ils sont embarrassés, je ne dirais pas en argot qu'ils sont en berlificoté, je dirais qu'ils sont saisissants. Ils sont saisissants parce que les Américains reconnaissent effectivement qu'un avion U-2 a pu aller au-dessus de l'Union soviétique et a pu y aller probablement, dit le communiqué, en mission de renseignement. Et immédiatement après, le communiqué déraille sur une voie, je ne dirais pas une voie de garage, mais sur une voie d'explication, admettant que la guerre de l'espionnage a toujours existé, sous-entendant qu'elle existera encore, disant expressément, mon Dieu, que si les Russes ne cachaient pas tellement leurs secrets, on n'aurait pas besoin d'aller chez eux pour essayer de les découvrir au service de la liberté et de l'humanité, évidemment, puisqu'il s'agit de déceler les risques d'une attaque par surprise. Évidemment, c'est une reconnaissance, et quand on sait, nous l'avons dit hier, nous le répéterons toujours, que les services secrets se font une guerre secrète et que cela est connu, mais cela ne sert à rien de le reconnaître, il faut ne pas se laisser prendre, et mon Dieu, le communiqué l'indique alors bien plus nettement qu'entre les lignes, on s'est laissé prendre la main dans le sac.
Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on avait interrompu au printemps 1959 les vols. Eisenhower avait ordonné l'arrêt des survols de l'Union soviétique par les U-2 dans le cadre du rapprochement avec l'Union soviétique et pour ne pas mettre en danger le processus de rapprochement avec l'Union soviétique. Donc il avait donné l'ordre de tout arrêter.
Alexandre Riosbord.
Mais il va autoriser, à la demande sous la pression de la CIA et du département de la défense, il va autoriser deux vols fin avril, début mai 1960. Et c'est le second de ces deux vols qui va mener à l'incident de l'U-2. Donc l'avion est abattu par un missile soviétique. Il est abattu le 1er mai. Dans un premier temps, c'est le silence. Personne ne dit rien. Les soviétiques attendent. Et puis ils vont annoncer, ne voyant pas venir de réaction américaine, ils vont faire un communiqué officiel le 5 mai pour dire qu'ils ont abattu un avion espion. La réaction américaine le même jour, donc le 5 mai, la réponse américaine, le premier communiqué du département d'État, c'est de jouer la surprise. On ne comprend pas, pour une bonne et simple raison, c'est que les Américains pensent que les Soviétiques n'ont pas de preuves avec eux. Ils n'ont pas l'U-2. Ils l'ont certainement abattu, mais ils n'ont pas de preuves. Pour une bonne et simple raison, c'est que l'avion a un mécanisme d'autodestruction qui doit, s'il est abattu, le détruire. Quant au pilote, on pense qu'abattu à 70 000 pieds, il n'a aucune chance de survivre. Et si malgré tout, il devait survivre, il est équipé d'une pilule qui doit lui permettre de se suicider, de ne pas tomber aux mains des autorités soviétiques. Or, il se trouve que l'avion a été abattu, peut-être un peu plus bas, on ne sait pas exactement, il n'y a pas d'enquête qui ont conclu exactement là-dessus. En tout cas, ils ont des parties de l'appareil, ils ont une partie de son équipement, et puis surtout, ils ont récupéré le pilote, qui n'a pas eu la courtoisie de se suicider. Francis Gary Powers a été attrapé. Et donc, dans un premier temps, les Soviétiques ne le disent pas, le 5 mai. Ils vont dire, on a abattu un avion espion. Et donc, les Américains vont jouer aux idiots, en quelque sorte. Le département d'État va faire une déclaration en expliquant que, effectivement, ils ont perdu un avion. C'était une déclaration conjointe avec la NASA, mais c'est un avion de recherche civil, qui visiblement, et le pilote lui-même étant évidemment civil, c'est un avion de recherche. Il s'est perdu parce que visiblement, il y a eu un problème avec le système d'oxygénation du pilote dans cet avion de recherche. Et donc, suite à cet incident, il a dû dévier de sa course et il a dû, par accident, rentrer dans l'espace soviétique. Et donc, il a été abattu, mais ça n'a rien à voir avec une mission militaire. Il s'agit d'une mission de recherche qui décollait depuis la Turquie. Et donc, le département d'État est bien embêté, mais il ne s'agit pas d'un vol d'un avion espion. Alors les soviétiques vont attendre 48 heures, et puis le 7 mai, ils vont faire un deuxième communiqué dans lequel ils vont annoncer que non seulement c'était bien un avion espion, mais en plus ils ont le pilote et l'avion, ils ont les preuves de la mission et de son objectif. Et Khrouchtchev, dans sa déclaration, va essayer d'exonérer le président américain pour garder ses options ouvertes. Il va exonérer le président américain, il va blâmer l'appareil militaire américain et la CIA, en disant que ça n'est certainement pas le président américain qui est quelqu'un de bonne foi, mais que sans doute on a ordonné ce vol à quelques jours d'une réunion si importante, peut-être laisse-t-il entendre pour faire capoter les négociations. Donc c'est à la fois un moyen évidemment de mettre la pression sur Eisenhower, c'est aussi un moyen de garder ses options ouvertes dans le cadre de la négociation avec les États-Unis. En réponse, les États-Unis vont, après un long moment d'hésitation au cours de la journée, donner un second communiqué, dans lequel, cette fois, on change complètement d'attitude, c'est-à-dire on assume. Alors on assume prudemment, hein, on rappelle que c'est un avion non armé, le U-2, hein, donc il ne s'agissait pas de bombarder l'Union soviétique, hein, mais on confirme que c'est bien un avion espion. Deux jours encore passent, et Khrouchtchev annonce le 9 mai qu'il maintient sa présence à Paris, qu'il maintient son voyage à Paris, et que la conférence va avoir lieu, doit avoir lieu, à condition que les Américains s'excusent. Et à la conférence, les Américains vont refuser de s'excuser. Et donc Khrouchtchev, qui a préparé dans son avion un discours, parce qu'il s'attend à l'absence d'excuses américaines, il va livrer un discours d'abord en privé aux chefs d'État réunis à Paris, donc à De Gaulle, Macmillan et Eisenhower. Il va livrer un discours extrêmement agressif en disant qu'il n'est pas question que la conférence se poursuive, que les soviétiques, en l'absence d'excuses, ne vont pas rester. Et on finit par aboutir évidemment à ce qui était pratiquement inévitable à partir du moment où la crise se déclenche le 5 mai, c'est-à-dire l'échec de la conférence. Alors cette conférence n'est sans doute pas le rendez-vous manqué de la guerre froide qu'on n'a pas voulu voir, mais il est certain qu'à court terme en tout cas, c'est le signe d'une remontée des tensions entre les deux pays qui se poursuivront dans les mois qui suivent.